À Rencontre spirituelle aujourd'hui, sur question de Maria Valtorta, qui est décédée en 1961, et qui est un personnage absolument extraordinaire de notre siècle. Elle nous rappelle Anne-Catherine Emmerich, que certains d'entre vous, j'imagine, ont déjà lu, qui a déjà écrit au siècle dernier sous la... avec un prêtre, n'est-ce pas? Une sorte de vie de Jésus, si on veut, ou un commentaire de l'Évangile, ou des extrapolations au sujet de l'Évangile qui nous permettent de mieux comprendre, semble-t-il, certains événements de la vie de Jésus. Il en va de même avec Marie d'Agreda, n'est-ce pas? Et de rares autres qui ont pris la plume comme ça et qui ont écrit des choses surprenantes. Maria Valtorta a écrit l'Évangile tel qu'il m'a été révélé en 10 gros volumes, n'est-ce pas, ou du moins 10 volumes importants. En italien, le titre c'est « Il poema dell'uomo Dio », le poème de l'homme-Dieu. Dans le dictionnaire de spiritualité, qui est un dictionnaire qui fait autorité et qui est extrêmement important dans l'Église, on dit que c'est une immense compilation de visions, voyez-vous, plus ou moins fondée sur les récits évangéliques, et qu'il est organisé en 10 livres qui suivent le déroulement de la vie de Jésus, voyez-vous. Et la manière est assez proche de celle de Marie d'Agreda, qui a écrit ça il y a plusieurs siècles. La mise en scène est fortement colorée. 3 points de suspension, dit le dictionnaire de spiritualité. Le Jésus de Maria Valtorta s'exprime abondamment, souvent de manière superflue, je suis bien d'accord avec ça, voire contestable même. Il y a des passages qui, à mon avis, sont contestables. C'est ce qui fait que le Vatican est hésitant devant tout ça, tout en acceptant qu'on le publie, parce que ça rend de grands services spirituels à des milliers et des milliers de gens qui, à travers ses écrits, s'approchent des évangiles et trouvent probablement la lecture des évangiles même alors quelque chose de plus nourrissant pour leur âme. Le dictionnaire de spiritualité ajoute que Maria Valtorta a toujours attribué la source de ses écrits à des visions ou à des paroles intérieures. On sait à quelle longueur la relation d'une vision peut donner lieu. Et quoi qu'il en soit, un spécialiste, Monsieur Di Ciotti, relate que Maria Valtorta se mettait à écrire n'importe quand, se laissait interrompre par n'importe qui et reprenait aisément sa rédaction. C'est assez extraordinaire. Ses écrits connaissent toujours une très large diffusion. Ils sont diffusés ici, en particulier à Sherbrooke, par un spécialiste québécois remarquable qui a enregistré des cassettes extrêmement intéressantes, le professeur Léo Broder, qui est licencié S-Lettres, qui est docteur en philosophie de l'Université de Sherbrooke, qui a d'ailleurs une très belle voix sur ses cassettes, c'est très bien fait. Hein? Je tiens à le féliciter. Il y a une de ses cassettes qui est une excellente présentation, fort louangeuse, de Maria Valtorta, qui s'intitule « L'avenir réservé à l'Évangile tel qu'il m'a été révélé » et à son auteur, Maria Valtorta. Alors, on peut dire que Maria Valtorta s'insère dans le groupe nombreux des visionnaires italiennes qui jalonnent le XXe siècle. Alors, on peut se procurer ces volumes auprès de Monsieur Broder à Sherbrooke, c'est aux éditions Tout Neuf. Et je m'inspire d'une petite vie toute brève de Maria Valtorta, qui est un chemin de croix vers le bonheur, dit-il, du professeur Broder. Je vous parcours quelques extraits afin de vous faire mieux comprendre qui est cette femme exceptionnelle. Disons d'abord que Maria Valtorta est née en Italie, à Caserte. C'est tout près de Naples. Hein? Les Italiens qui viennent de cette région connaissent ça. Elle est née le 14 mars 1897, il y a un peu plus de 100 ans. Mais son père, qui était un militaire, sa mère, elle, était professeure, ou enseignante, si vous préférez. Alors, dans la maison, avec un militaire et un professeur, on peut dire que c'est l'ordre, la discipline qui règne. Hein, et elle est fille unique de ses parents qui sont à l'aise. Elle aurait pu être gâtée, mais elle ne l'a pas été, non, non. Loin de là, très loin de là. Il y a, heureusement, entre son père et elle, beaucoup d'affection, mais sa mère, par contre, elle est plutôt froide et autoritaire. Hein. Et elle va jouer dans la vie de Maria, sa fille, un rôle de premier plan, et ce sera un rôle plutôt cruel et terrible. Je vous signale que Maria meurt, donc, en 1961, à 24 ans. Alors, voyons, qu'est-ce qui s'est passé dans une première période de sa naissance, 1897, jusqu'à 1923. Afin de bien saisir la vie de Maria Baltorta, il faut voir comment, dans la première partie de sa vie, Dieu semble vouloir la détacher de toute chose. On utilise souvent l'expression, n'est-ce pas, la voie purgative. Et c'est tout indiqué, semble-t-il, pour désigner cette opération de Dieu dans son âme. Dans son autobiographie, car elle a écrit son autobiographia, comme on dit en italien, elle est écrite, cette autobiographie, à la demande expresse de son directeur de conscience, un servite, un père servite, comme Mgr Cimichella, qui est servite de Marie. Les servites sont très importants en Italie, d'ailleurs. Elle écrit « J'ai beaucoup souffert. De prime abord, cela peut paraître impossible. » J'étais fille unique de famille assez riche, en bonne santé jusqu'à 20 ans, vivant avec mes parents, apparemment en bonne harmonie. Alors, qu'est-ce qui aurait pu me manquer? Ben, rien. Mais qu'est-ce qui m'a manqué en vérité? Tout. Ce tout que je voulais pour moi, c'était un grand, grand, grand amour de maman. Que m'importaient les jouets, les friandises, les jeux? Quand il m'était donné, accompagné d'une sévérité glaciale, pire encore, de scènes désagréables dans la famille. Combien j'ai envié les enfants pauvres. Je les voyais manger leurs tartines dans les bras de leur mère. Je les voyais jouer avec une poupée en étoffe que l'amour de leur mère avait confectionnée pour eux. Alors la famille commence tôt à se déplacer à cause de la carrière militaire de son père. Hein. Alors ils vont à Milan, tout à fait dans le nord de l'Italie. Très belle ville, d'ailleurs. Et Maria va entrer à l'école maternelle, puis à l'école primaire. Elle va faire ses études, donc, chez des religieuses. Ce sont des Marcellines. Elle fréquente ensuite l'école publique de Voghera, au sud de Milan, tout près. Puis elle entre au collège Bianconi de Monza, un peu au nord de Milan, à 12 ans. Elle souffre d'être séparée de son père, auquel elle est très attachée, évidemment. Et en 1910, son père cesse soudain de lui écrire. Elle a 13 ans. Pourquoi y a-t-il un arrêt comme ça dans les lettres? Hein? Elle ne le sait pas. Sa mère lui écrit et elle lui écrit puis n'en parle pas. Après quelques mois, Maria a la visite de sa tante Angela. Pendant 2 mois, papa avait été entre la vie et la mort, et seulement un miracle de Dieu avait empêché sa mort prématurée, car il avait alors que seulement 47 ans. Et à présent, il commence à prendre du mieux. Mais le mal n'étant pas contagieux, j'aurais très bien pu visiter le malade. Alors, papa aurait pu mourir, dit-elle, et être enterré sans que moi, sa fille unique, qui avait alors 13 ans, soit près de lui. Et ce qui est pire, sans même que je le sache. Sa mère était très dure pour elle. Mais Maria ne garde pas de rancune contre sa mère et lui pardonne. Comme elle lui pardonnera toujours, c'est un très beau signe de la qualité de l'âme de Maria Baltorta. Pour ce qui est de son père, après cette maladie, il n'est jamais plus le même. Il doit prendre sa retraite. Et sa vie devient misérable. Mais Maria fait de bonnes études. Elle a été placée par sa mère dans le secteur technique alors qu'elle n'a pas de talent pour les mathématiques. Elle en a beaucoup pour d'autres matières, littéraires surtout, et d'ailleurs, ses textes sont fort bien écrits. Hein? Et les textes qu'elle écrira plus tard. Après 4 ans, soit en 1913, sa mère la retire prématurément du collège et la famille quitte Monza pour Florence, la belle ville de Florence. C'est là d'ailleurs qu'elle est enterrée. Je suis allé vénérer sa tombe dans la chapelle du chapitre du couvent des servites de Florence. Mes servites m'ont montré sa tombe. Maria y prolonge sa formation à Florence en suivant quelques cours dans une institution privée où elle réussit à obtenir son diplôme d'études techniques, au-delà duquel elle n'entreprend jamais d'autres études. Et sa mère, qui lui a refusé une carrière dans le domaine intellectuel, l'empêche aussi de pratiquer, d'aller à l'église sur semaine. Elle dit « Pour le reste, je continuais à vivre à peu près comme au collège. Je me levais tôt, je priais. Le dimanche, j'allais à l'église et je recevais la Sainte Communion. J'aurais voulu le faire plus souvent. Mais maman avait tout à coup commencé un vrai cours théorique et pratique pour me démontrer qu'il n'y a aucune nécessité de se confesser et de communier souvent, et que celui qui le fait n'est autre que quoi? Un hypocrite. Et pire, que les autres qui n'y vont pas. Il reste, ça n'en finissait plus. Elle dit, je ne sais combien de fois pendant 20 ans, à partir de 1913, j'ai entendu résonner à mes oreilles ces leçons gratuites d'indifférence religieuse. Alors, c'est terrible la relation avec sa mère, mais l'obéissance de Maria peut nous surprendre. Mais en principe, elle dit, j'obéissais avec douleur et je ne communiais que le dimanche et le premier vendredi du mois, et en plus aux fêtes principales. Alors la famille est maintenant établie à Viareggio. Je suis allé aussi avec Mgr Cimicalla à Viareggio. C'est très beau, c'est près de Pise, c'est au bord de la Méditerranée. On peut se promener sur la plage, il y a beaucoup de bateaux. C'est un bel endroit. Et Maria a 16 ans à ce moment-là. Et elle rencontre un étudiant, Roberto, qui vit dans le voisinage immédiat de la famille. Et puis, lui, il s'éprend d'elle et elle aussi. Elle explique tout ça à son directeur spirituel, d'ailleurs, je vous en lis un petit passage. « Peut-être cela vous étonnera-t-il, mon père, que je me sois ainsi attaché à quelqu'un qui n'a eu pour moi que des politesses d'usage et qui n'a jeté sur moi que quelques regards affectueux. Comment pouvais-je ne pas m'éprendre de quelqu'un qui montrait qu'il m'aimait avec respect et sérieux? Il n'y avait rien en lui pour déplaire à une femme, ni l'origine, ni l'appartenance. Ni rang physique, ni le patrimoine, ni l'éducation, ni la culture. Alors, voilà peut-être le grand amour, est-ce qu'il va se marier? Et il pourrait évidemment conduire au mariage, là. Mais Madame Valtorta, la mère, déjoue tous les projets. C'est vraiment une femme terrible. Un jour, elle affronte cruellement sa fille Maria et Roberto. Et Roberto est accusé des pires fautes. Puis il est renvoyé. Il ne revient plus. Et après son départ, Maria Valtorta est soumise à une scène violente. Sa mère lui dévoile crûment les réalités charnelles. Imaginez, à l'époque, ça devait être tragique. Vous savez qu'il y avait des femmes qui se mariaient vers 1910-1915, ici à Montréal, qui ne savaient absolument rien des réalités charnelles. Elles découvraient ça la nuit de noces. Alors c'est tragique sur le plan psychologique, ce que fait la mère. Jusqu'à ce quoi, ce soir-là, du 5 janvier 1914, écrit Maria Valtorta dans sa biographie, « J'en étais ignorante de ces choses, voyez-vous. » Elle ajoute le fait de m'avoir ainsi tout dévoilé sans pitié. Pour l'innocence de mes 16 ans, était la chose qui m'a blessé le plus et séparé pour toujours, définitivement, de celle qui m'a engendré, sa mère, quoi. Cependant, Maria pardonne encore. J'ai continué à servir ma mère par devoir, parce que Dieu l'aimait malgré tout. Mais mon cœur s'est fermé comme la coquille d'une huître. Ça se ferme solidement, une coquille d'huître. Mais quelques mois plus tard, après le commencement de la Première Guerre mondiale, Maria apprend que Roberto, objet de son amour, est mort. Au combat. Elle dit, j'ai souffert inexprimablement et j'ai cru qu'il n'était pas possible de souffrir davantage. Plusieurs années après, j'ai compris qu'on peut souffrir plus encore. Elle aura beaucoup de souffrances durant sa vie. Elle dit, je sentis que ma vie se déchirait et en vérité, elle se déchira pour toujours. Alors ces événements vont changer toute sa vie, hein, même Maria n'en comprend pas aussi le sens. Ce n'est qu'en 1943 qu'elle écrit, je comprends maintenant et je dis, merci mon Dieu de m'avoir voulu pour toi. Mais pendant les premières années, ajoute-t-elle, 5 ans environ, j'ai connu l'enfer du désespoir. Je continuais à aller à l'église. Je continuais à faire mes communions du premier vendredi du mois, c'est certain. Car où aurais-je pu aller pleurer sinon à l'église? Mais c'était de pauvres prières, de pauvres communions. Elle dit le désespoir. Combien j'aurais à dire à ce propos? Combien j'aurais à dire au sujet des désespérés qui sont les plus misérables des humains? Mais le temps avance, puis en 1920, Maria a 23 ans. Alors, donc en 1920, survient à Florence un événement terrible. Je vous raconte ça, c'est terrible, ça arrive aujourd'hui, de plus en plus. Hein. Le 17 mars, je fais une sortie avec maman. Au retour, alors que nous étions dans le voisinage de notre maison et que je marchais, donnant le bras à maman à cause de sa vue très faible, je fus frappé au rein par un jeune délinquant, fils d'un communiste dont l'épouse était notre modiste. Avec une barre de fer prise à un lit, il est venu derrière moi et de toutes ses forces, en criant, il m'a frappé. À bas les riches et les militaires, et il m'asséna un grand coup. Je sentis une douleur si forte que je tombai à genoux sur le sol et mes jambes ne pouvaient plus me porter. Avec beaucoup de peine, je me relevai et je me traînai jusqu'à la maison. C'est un événement très tragique, car après une nuit d'agonie, elle est transportée à l'hôpital, elle y passe 3 mois de convalescence. Elle ne se remettra jamais de cette lésion vertébrale et de ses séquelles. Nombreuses et permanentes, elle en souffrira beaucoup, toute sa vie. Elle écrit, « Les nombreux ponts qui m'unissaient aux créatures avaient été brisés. Dieu travaillait à m'isoler pour m'avoir entièrement à lui. » Ça rappelle un peu Marthe Robin dans un sens. Jusque-là, elle a parlé avec une franchise exemplaire à son directeur spirituel. Tout est vérité dans ce récit que j'écris. Mais voici qu'elle doit aborder des sujets plus intimes. Et cette vertu remarquable chez Maria, son obéissance à Dieu, sa mère et son directeur spirituel, ça ne fera jamais défaut. Elle dit, j'avoue, mon père, que je n'ai pas eu trop de peine à surmonter ma réticence à parler de mon passé. Mais maintenant que j'en aborde la meilleure partie, je crois faire un effort considérable. Je crains de mal exprimer ce que je sens si bien. Et puis, il y a des pages de lumière dans la vie des âmes qui ne devraient être lues que par Dieu seul, qui les y a écrites. Eh bien, je me rappellerai que vous êtes un ministre de Dieu et que ce que vous me demandez en son nom, c'est comme s'il le demandait lui-même. C'est pourquoi j'obéis. Et je vais de l'avant, foulant au pied la tentation que j'ai de terminer ici le récit de ma vie avec cette phrase que j'emprunte, « Je me suis offerte à Dieu et Dieu m'a accepté. » Alors je suis très content de savoir que vous avez une grande dévotion à la douce sainte petite, la douce petite sainte plutôt de Lisieux. Ainsi vous me comprendrez mieux. C'est donc dans cet esprit que Maria Valtorta nous rend témoin du merveilleux progrès de sa vie intérieure. Et les 26 premières années n'ont pas été qu'un douloureux dépouillement. Dieu a aussi lentement, semble-t-il, pénétré dans la vie de celle qui l'a privée de tant de choses que la plupart jugent indispensables, et elle a à apprendre que lui seul est indispensable. Rappelons-nous ça, que Dieu seul est indispensable. Alors, un premier amour pour Jésus. Dès l'école maternelle, à 5 ans, j'aurais pu vous dire ça tout à l'heure, Maria a éprouvé pour Jésus un amour dont elle a parlé dans la première partie de son autobiographie. Il y avait dans la chapelle une statue du Christ mis au tombeau. Et elle écrit, elle était sous l'autel principal et c'est ainsi, et pas autrement, que devait être le Christ quand les mains pieuses de Joseph d'Arimathie et de Nicodème l'ont décloué de la croix pour le déposer dans les bras de sa mère. De grandeur naturelle, il avait toutes les plaies. Et c'était très impressionnant. Et plusieurs de mes compagnes pleuraient de peur quand elles y étaient conduites pour le voir et le prier. Est-ce qu'elles pleuraient vraiment de peur? J'espère que non. Elle dit que elle, d'ailleurs, a dit, je ne pleurais pas de peur, mais je tremblais de compassion. C'est un beau sentiment noble chez une enfant. Et puis, elle ajoute, je sentais que c'était son amour pour nous qui l'avait réduit ainsi, et j'aurais voulu le consoler. J'aurais voulu que la chasse fût ouverte pour pouvoir me rapprocher de lui, caresser sa tête couronnée d'épines. Alors, elle se sent donc appelée à partager les souffrances de Jésus. Elle dit, « Dire maintenant, après plus de 30 ans, tout ce que Dieu m'a dit serait impossible. Cependant, une parole est demeurée très nette en moi, une parole, une phrase plutôt, que je compris aussitôt, et qui était celle que j'avais demandée avec humilité et confiance. La phrase programme, la phrase guide, la phrase avertissement de toute ma vie future. Et c'est quoi? C'est tout simple. « Âme qui m'aime, dit Jésus. Tu ne seras pas l'amour innocent, tu seras l'amour pénitent. » Alors, il y a une invitation, comme pour Marthe Robin et d'autres, qui est très mystérieuse, à partager les souffrances de Jésus dans l'amour. Maria avait à comprendre de quel péché elle aurait à se juger coupable. Les années ont passé, les épreuves se sont multipliées, le Seigneur a continué de diriger cette âme qu'il a choisie. Puis en 1916, au cœur même de la crise qui a suivi la rupture brutale avec son ami Roberto, qui est mort, Maria avait eu un beau songe, à la fois prophétique, prémonitoire, qu'elle racontait en plusieurs pages, je n'ai pas le temps de vous lire. Elle avait 19 ans lors de ce songe. Elle termine d'ailleurs le récit de ce songe un peu curieux. Je me réveillais, l'âme illuminée de quelque chose qui n'est pas terrestre. Or, l'expérience mystique de Maria va se développer au-delà de ce qu'elle aurait pu prévoir et dont elle aurait pu se croire digne. Et le songe dont je viens de vous parler a annoncé des grâces insignes, car le fond du cœur de Maria n'a pas changé. Comme après l'accident épouvantable de 1920, là, que je vous ai raconté, la paix lui a encore été redonnée. Elle dit « Je souffrais beaucoup alors. C'était une douleur pure, de toute fièvre des sens, une douleur sainte, privée de toute envie de révolte. » C'est un exemple à suivre. Elle ajoute « La première douleur m'avait détaché de Dieu et de la loi de Dieu en me jetant dans la poussière. La seconde douleur, encore plus grande, qui ouvrait toutes les blessures que le temps avait refermées, me ramenait complètement à Dieu et m'unissait à lui. Il me restait au monde, et ne me restait au monde aucun autre sentiment capable de rassasier mon âme. Il n'y avait plus rien, plus personne. Dieu seul me restait pour me tenir lieu de père, de mère, d'époux, d'amis et de maître. Et je pleurais à ses pieds. Je parlais avec lui. Je me faisais consoler par lui. Je lui demandais humblement de me prendre par la main et de me conduire sur la voie qui lui plaisait, parce que j'étais égaré et que je comprenais que par moi seul, je ne saurais jamais trouver la voie qui me destinait sa volonté. » Beaucoup de gens très sérieux se sont penchés sur cette visionnaire exceptionnelle. L'un qui m'impressionne le plus, c'est le père Dreyfus, qui n'est pas n'importe qui, le père Dreyfus. C'est ce juif converti, dominicain, qui est de l'école française biblique et archéologique de Jérusalem, et qui a déclaré, il y a un peu plus de 10 ans, qu'il a été très, très impressionné de trouver dans les ouvrages de Maria Valtorta le nom d'au moins 6 ou 7 villes que l'on ne retrouve pas dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et ces noms ne sont connus que par quelques spécialistes et à travers des sources bibliques très savantes. Il se pose la question, comment cette femme a-t-elle pu savoir et connaître le nom de ces villes, si ce n'est, semble-t-il, que par les révélations qu'elle a reçues? C'est un problème pas facile. Il est diplômé de l'École polytechnique de Paris, ce père François Dreyfus. Il est, depuis d'ailleurs 1968, professeur de théologie biblique là, la célèbre école biblique et l'école archéologique française de Jérusalem, comme je vous ai dit. Je reviens donc à la vie de Maria Valtortas. Je vous ai dit que je suis allé sur sa tombe à Florence. C'est une plaque par terre, à gauche, dans une chapelle où il y a beaucoup de tombeaux. Il y avait un livre. Je m'y étais spontanément engagé à faire une émission après avoir bien étudié le cas. J'avais écrit ça là-bas. Bon, le 29 juillet 96, en la fête de Sainte-Marthe, je lui avais confié ça. Et voici donc qu'en 1923, le songe dont je vous ai parlé tout à l'heure de 1916, 7 ans plus tôt, produit comme un écho dans un nouvel ensemble de visions qui se développe à tel point qu'il semble annoncer les fameuses années 1944-47, c'est les années fécondes et imprévisibles où elle va écrire ses 10 volumes extraordinaires. Elle écrit « Depuis ce songe du mois de juin 1916, je n'avais plus rêvé de lui à Jésus. Maintenant, il revenait avec une fréquence qui me faisait désirer le sommeil comme étant ma seconde vie merveilleuse et j'ai suivi Jésus à travers les régions de la Galilée. Je l'ai entendu prêcher aux foules. Je suis passé à son côté dans les champs de la moisson. Et j'étais à ses pieds, la tête sur ses genoux. Pendant que lui-même parlait, assis au haut d'un escalier, je l'ai vu s'attrister et mourir dans le jardin des Oliviers sur le Golgotha. Et j'ai reçu la communion, ses mains, dans le beau paradis. Toujours il y avait ce visage, ce regard, cette voix, ses mains. Et cette infinie douceur amoureuse, cette sublime majesté, que de 12 visions. Elle ajoute, le feu de sa charité pénétrait de plus en plus profondément en moi et m'embrasait. Je brûlais de l'aimer infiniment et de le faire aimer. J'aurais voulu dire à tous, aimez. Aimez Dieu, si vous voulez être heureux. Aimez et laissez-le vous aimer comme il le désire. Ne dressez pas d'obstacle à son entrée chez vous. Elle termine, de cet amour céleste, la suavité, la douceur, la plénitude sont telles que rien ne peut y être comparé. Rompu tous les liens qui m'avaient tenu attaché aux créatures. Mon âme s'est lancée libre et joyeuse dans le royaume du surnaturel, et j'y pénétrai de plus en plus profondément, et je n'en suis jamais plus sorti. Alors après le songe de 1916, Maria a entrepris la recherche de l'image de Jésus. C'est assez intéressant pour moi qui m'intéresse au Saint-Suaire. C'est intéressant. Vous allez voir. Je suis allé dans toutes les boutiques d'art et d'objets sacrés à la recherche d'un visage de Jésus semblable à celui que j'ai vu, mais je ne l'ai jamais trouvé. Alors, sa recherche va continuer plusieurs années. Elle va aboutir quand? En 1942, de façon inattendue. Elle rapporte ça en 1943, l'année suivante, en écrivant son autobiographie. Elle dit, après ce songe de 1926, j'ai rêvé de Jésus plusieurs fois, à partir de 1923, hein, comme on l'a vu. Il y avait toujours ce visage, cette taille, ses mains. Depuis quelque temps, ce que j'ai, c'est quelque chose de plus que des rêves, et je vois Jésus toujours avec ce visage, cette taille, ses mains. Quand vous m'avez donné mon père, elle parle au père Migliorini, son directeur spirituel depuis 1942, ce servite de Marie qui lui a demandé son autobiographie. Elle dit, quand vous m'avez donné mon père ce livre sur le Saint-Suaire de Turin, j'en ai reçu un choc, car j'y voyais, bien que changé par les souffrances endurées, ce même visage, cette taille, ses mains, parce qu'on voit tout le corps de Jésus sur le Saint-Suaire. De face et de dos. Elle a trouvé une authentique image matérielle de Jésus, voilà. Mais déjà, une toute autre présence de Jésus l'accompagne dans l'intervalle. Et c'est ça qui compte. La grâce et l'amour divin ont déjà permis à Maria de s'élever, on peut dire, vers des sommets spirituels. Mais comment résumer cette ascension continuelle? On peut noter les étapes de cette période où Maria passe de ses 26 à ses 45 ans. Bon. Le 28 janvier 1925, Maria achève la lecture de l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'elle s'est fait acheter par ses petites économies. Elle dit, quand j'ai lu l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, j'ai pleuré de joie. C'est si beau, cet acte. J'avais trouvé ce que je cherchais. Alors à son tour, Maria s'offre à l'amour miséricordieux. Quelques années après, nous ne savons pas la date exacte, mais c'était avant 1931, Maria prononce les trois vœux de virginité, de pauvreté et d'obéissance en tant que laïque. Le 1er juillet 31, elle s'offre à Dieu. Un geste suprême de l'amour humain face à son Dieu. À Noël 1932, l'année suivante, Maria assiste à 35 ans et avec de grandes douleurs à la messe de minuit. Elle s'en explique de façon surprenante, elle dit « Ce fut la dernière messe à laquelle j'assistais, la dernière. J'en ai souffert intensément. » Et elle dit « J'ai cessé de me plaindre, d'être enfermée à cause de ma maladie, d'être comme une de ces ensevelies vivantes du Moyen-Âge, qui vivaient des dizaines d'années emmurées dans leurs cellules afin de souffrir, de prier pour ceux qui se livraient au plaisir et qui ne priaient pas. » Alors la privation de l'Eucharistie pour Maria, un sacrifice épouvantable, a dit « J'ai souffert cela avec un esprit de pauvreté, mais cela était tellement douloureux. Pensez tout ce que la maladie ou le démon ont suscité en moi pour troubler mon esprit. J'ai eu à le subir seul, sans l'aide de la communion fréquente, qui est puissante plus que toute autre chose pour fortifier un cœur. » C'est vrai, ça. Alors on va lui permettre de communier très peu souvent. Elle passera jusqu'à 3 mois parfois sans communier. Étrange période. Quelques semaines après la fête de Pâques de 1934, Maria ne peut plus se déplacer. L'infirmité la force au lit. Elle ne se relèvera plus pendant 27 ans. En 1935, son père meurt. Elle l'aimait beaucoup. Elle se sait seule sans son père. Deux soutiens qui nous est facile de juger nécessaires, l'Eucharistie puis son père. C'est terrible pour elle. La même année, une amie de la famille, Marta Di Ciotti, qui est devenue une spécialiste de Maria Valtorta, parce qu'elle a accepté la responsabilité d'être sa gardienne et fidèle compagne jusqu'à sa mort à 64 ans. Depuis la mort de Maria Valtorta en 61, Marta Di Ciotti garde la maison où l'on vit en pèlerinage. En 42, le père Migliorini, le servite, devient son directeur spirituel, comme vous le savez, et il lui demande d'écrire sa vie, qui demeure un ouvrage fort intéressant. Et en remettant son autobiographie à son directeur, Maria précise l'intention qui l'a guidée, a dit qu'il lirait ce que j'ai écrit pour apporter divers jugements plus ou moins favorables. Mais je ne me suis pas soucié des jugements humains, ni pour ce qui est du style, ni pour ce que je puis paraître, ni pour aucune autre raison. Et dans ce récit, je suis moi, avec tout moi-même. Là est ma chair avec ses passions humaines, parce qu'elle est devenue amoureuse, mon âme avec ses espérances spirituelles, mon esprit avec son amour adorateur. Maria Valtorta s'est offerte à Dieu, donc sans condition, pour sauver les âmes. Or voici que depuis quelques années, son infirmité l'a réduite à l'inactivité. Et elle écrit « Je suis un outil dans les mains de Dieu ». En 43, elle arrive à la fin de son travail autobiographique. Elle dit « Mon âme te loue au Seigneur et exulte en toi, qui a voulu regarder avec bienveillance ce rien que je suis et en faire un instrument de bien pour les autres, rien comme moi. Sois béni, Seigneur. » En somme, elle est prête à mourir. Elle est prête à mourir. Puis la période, la troisième, de 1944 à 61, c'est la troisième période de sa vie. Il lui reste 17 ans à vivre. Maria vient à peine de finir l'autobiographie qu'elle commence à recevoir des dictées de Jésus, prétend-elle. Dès le 23 avril 1943, toujours au lit, elle les écrit difficilement à l'encre dans des cahiers superposés. Pendant 8 mois, elle remplit 11 cahiers d'un total de 1338 pages. Plus très peu encore. Ce n'est qu'un début. Vient 1944, un énorme travail est soudainement proposé à Maria. Elle accepte, elle obéira. Jésus lui apprend qu'elle va revivre, semble-t-il, une grande partie de sa vie sur terre, beaucoup plus que ce que contiennent les évangiles. Elle va décrire ce qu'elle voit dans les visions qu'elle aura. les lieux, les personnes, les actions. Elle va transcrire toutes les paroles entendues. Et parfois, à mon avis, il y en a un peu trop. Et même étrange parfois. Si j'avais le temps, je vous lirais ça. Et souvent, Jésus et Marie lui dicteront des explications. Parfois, il est écrit « Le Père dit » aussi. C'est assez curieux, parce qu'elle commence toujours par « Jésus dit, Marie dit ». Elle se mettra au travail d'écriture sur demande, à l'improviste, quelques heures tous les jours, toute heure du jour et de la nuit, par tous les temps, dans toutes les situations de la vie quotidienne, pendant ses repas, pendant les visites, pendant une durée de près de 3 ans et demi. De janvier 44 à la fin d'avril 1947, elle va remplir près de 80 grands cahiers qui font plus de 10 000 pages. Et cette œuvre est aujourd'hui publiée, traduite dans nombreuses langues. 5 000 pages imprimées. Alors, à cette œuvre principale, il faut ajouter quelques dizaines d'autres cahiers sur différents sujets. Maria Valtorta a donc accompli un travail très ardu, bien qualité. Et de son œuvre, Maria Valtorta prétend qu'elle n'est pas l'auteur, mais que le véritable auteur en est Jésus. Et elle s'explique par ailleurs, « Je puis affirmer que je n'ai pas eu à ma disposition les sources humaines pour savoir ce que j'écris, ce que, même en l'écrivant, souvent je ne comprends pas. » Alors, une des grandes œuvres mystiques de tous les temps, a déclaré le père Ruskini, ce grand spécialiste de Marie, « une des grandes œuvres mystiques de tous les temps. » Mais ce n'est pas la vie de tout le monde. Il ne faut pas se laisser prendre à ce point par un seul point de vue. Il faut regarder les deux et se faire une opinion personnelle. Nous sommes libres. Le cardinal Ratzinger nous dit bien qu'il n'y a pas là d'intervention divine. Il déclare qu'il faut indiquer dans ses livres un avertissement que cette œuvre n'est pas d'origine surnaturelle. Pourtant, ceux qui maintiennent le point de vue contraire ont des arguments parfois assez solides, comme celui que je vous ai versé tout à l'heure du père François Dollfuss. Après le 28 avril 1947, Maria Valtorta appose sa signature au bas du manuscrit. Elle écrit peu et de moins en moins. Puis en 1953, elle cesse, elle n'écrira plus du tout. Elle va tomber dans un état dont certains auteurs parlent. Ce serait un état de schizophrénie catatonique. Maladie très pénible qui fait beaucoup souffrir. Elle ne parlera même plus. On sait donc qu'elle a vécu les dernières années de sa vie dans cet état semblable au schizophrène. Et dès 1953, donc, elle sombre progressivement dans l'inertie physique totale. Elle en vient à ne plus pouvoir manger seule. Terrible. Celle qui a écrit avec autant de puissance, de langage, de maîtrise, de la forme littéraire, parce qu'elle écrit bien. Celle qui a cru donner à la parole de Jésus une ampleur pendant 5400 pages de ce qu'est l'Évangile tel qu'il m'a été révélé quand il est publié, ne peut plus que balbutier à peine ou répéter quelques mots comme un enfant. Quelle souffrance épouvantable. Il reste à faire une analyse de ce phénomène, déjà connu, semble-t-il, dans de nombreuses vies mystiques. Mais au bout de ces 10 années, une autre étape de la vie mystique se manifeste. Jésus aurait dit à Maria, « Je te ferai perdre la mémoire du monde dans mon amour. » Et cet amour, elle en est remplie, c'est difficile d'en douter. Durant ces derniers mois, elle garde un visage serein où resplendit la paix. Elle ne demande jamais rien. Elle se contente, jusqu'à la fin, de se taire et d'obéir. Obéir. C'est ce qu'elle fait encore le 12 octobre 1961, c'est l'anniversaire, le jour de sa mort, 1961. Lorsque le prêtre, en effet, qui est appelée à son chevet, là, alors qu'elle est depuis longtemps inconsciente, lorsque le prêtre prononce, vous savez, ces paroles de la prière des agonisants, là, « Quitte ce monde, âme chrétienne », je ne sais pas si vous connaissez ça, « Quitte ce monde, âme chrétienne », eh bien, Maria penche aussitôt la tête et expire dans l'obéissance. On rapporte d'ailleurs dans la vie de Saint François de Geronimo que le 11 mai 1716, il a rendu son dernier souffle au moment où le prêtre qui lui administrait l'extrême-onction a prononcé ces mêmes paroles. Curieux. Et c'est sans doute beau au-delà de toute cette imagination ce qui se passe alors, croit-on, et que Jésus a annoncé à Maria 17 ans plus tôt, en 1944, dans une vision qu'elle prétend avoir eue, et qu'elle a écrite, et que maintenant, elle peut se redire, tout en le vivant dans l'au-delà. Et voici le texte de cette vision. C'est très beau. « Combien tu seras heureuse quand je t'accorderai d'être dans mon ciel, pour toujours, après avoir quitté ce pauvre monde, sans même t'en apercevoir, passant d'une vision à la réalité, comme un enfant qui a rêvé à sa maman et qui, en se réveillant, se trouve avec elle, qui le serre dans ses bras, la tête sur son cœur. C'est ainsi que je ferai avec toi. » Alors, si vous voulez avoir des renseignements sur Maria Valtorta, il faut écrire au secrétariat de l'Association des Amis de Maria Valtorta. Vous pouvez mettre secrétariat de l'AAMV. C'est la boîte postale 492 à Sherbrooke. Et c'est J1H5KS. Vous pouvez obtenir le numéro de téléphone de cette Association des Amis de Maria Valtorta. Sherbrooke, c'est le 822-3979. Je le dis pour les gens de Sherbrooke en particulier, qui m'écoutent et qui voudraient en savoir davantage. Je vous ai dit que le père Roschini a écrit un livre, porte important, sur la Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta. Qui est le père Gabriel Roschini, servite de Marie, qui est mort en 1977? C'est un professeur à l'université. Il était professeur à l'université pontificale du Latran, philosophe, théologien, hagiographe, c'est-à-dire qu'il écrivait les huit saints, mariologue de grande renommée, hein, auteur de plus de 125 livres. 125 livres, faut le faire. Hein. Le père Roschini a fait des déclarations de conséquence dans cet ouvrage qu'il a écrit. Il dit que Maria Valtorta, de Viareggio, Italie, est une des 18 plus grandes mystiques de tous les temps. C'est ce qu'il prétend. C'est pas tout à fait l'avis du cardinal Ratzinger. Il ajoute, « La mariologie qui se dégage des écrits publiés inédits de Maria Valtorta a été pour moi une vraie découverte. Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse et aussi fascinante, à la fois simple et sublime. » Alors, c'est absolument extraordinaire. Hein? Vous pouvez vous le procurer aux éditions Colbé, case postale 2058, succursale Jacques Cartier à Sherbrooke, J1J3Y1. Vous savez qu'il n'y a plus de nickel obstat, hein? Tout est publié maintenant dans l'Église en nous laissant la liberté de juger par nous-mêmes, bien guidés par un prêtre. Hein? Il faut quand même savoir ce qu'on fait. Hein? Alors, il y a d'autres personnes qui ont écrit en faveur de Maria Valtorta, et en particulier Monseigneur Hugo Latanzi, qui est le doyen à l'époque de la faculté de théologie de l'Université pontificale du Latran à Rome, aviseur du Saint-Office, il dit en 1951, « L'auteur ne peut pas avoir écrit d'une façon aussi abondante sans avoir été sous l'influence d'un pouvoir surnaturel. » Il y a le cardinal Bea, avant qu'il ne soit le cardinal Bea, il était le père, Agostino Bea, jésuite, recteur de l'Institut biblique pontifical à Rome et aviseur au Saint-Office aussi, lui disait l'année suivante, en 1952, j'ai lu les manuscrits dactylographiés des nombreux livres écrits par Maria Valtorta. Et en tant que je peux juger d'après l'exégèse, je n'ai trouvé aucune erreur dans les parties que j'ai examinées. Or, il y a des parties où il y a des choses qui sont plutôt extrêmement curieuses. Je vous fais part d'une partie qui est rapportée dans l'informateur catholique. Maria Valtorta met dans la bouche de Jésus des arguments que d'aucuns pourraient qualifier de simplistes pour démontrer que tout animal est tel qu'il a été fait depuis des millénaires, que les espèces n'ont pas évolué et que les animaux sont demeurés tels qu'ils étaient avec leurs instincts, leurs lois naturelles, leurs aptitudes particulières. Et la preuve en est que malgré l'écoulement des siècles et des millénaires, on ne voit jamais le taureau cesser d'être le taureau, le lion cesser d'être lion, ni le chien cesser d'être chien. C'est pour le moins curieux. Il y a des choses bien plus étranges que ça. Je pense, bon, je lisais dans le premier tome, une description, c'est Jésus qui parle. Je vous le lis rapidement. « Considérez les plantes dans leurs fruits et leurs graines. Obtiennent-elles semences et fruits par suite de fornication ?» Évidemment pas, hein. Elle prétend que les... C'est-à-dire Jésus prétend, d'après elle, le son Jésus à elle, prétend que les pollens mâles sont dirigés par un ensemble de lois météoriques et magnétiques, et le pollen va vers l'ovaire de la fleur femelle. Celle-ci s'ouvre, le reçoit et produit. Elle ne se souille pas, comme s'il y avait une souillure à faire l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Jésus dit là, d'après elle? Elle dit, considérez les animaux, tous les animaux. Avez-vous jamais vu un mâle et une femelle aller l'un vers l'autre pour un stérile embrassement et une relation impure? C'est son Jésus qui dit ça. Et ça continue, hein? Pages 40 et 41 du tome 1. C'est pénible de lire des choses comme ça, moi. Je peux pas vous lire le suite, je suis pas capable. Il y a des affaires sur Satan qui sont très, très étranges. Moi, ça me fait mal au cœur de dire qu'on met ça dans la bouche de Jésus. Et il y en a bien d'autres. Bien d'autres. Et c'est dur. Je m'excuse de faire de la peine à bien du monde, mais je ne veux pas vous faire plus de peine que ça. Et je m'arrête là en vous disant que les cassettes de M. Brodeur pourront vous intéresser. Il y en a plusieurs. Les livres, M. Brodeur les vend là-bas à Sherbrooke, vous pouvez les trouver probablement ailleurs, 10 volumes énormes, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, à mon sens, et de paroles qui dépassent un certain équilibre. Je ne comprends pas. Il faut savoir ce que je vais vous expliquer demain, parce qu'il y a une suite demain. L'émission spéciale demain porte sur « Que doit-on penser des nombreuses révélations privées ?» On peut les accepter, je ne vous dis pas de ne pas lire Maria Valtorta, mais je suis d'avis du cardinal Ratzinger, qui dit bien qu'il ne semble pas y avoir, du moins pour une grande partie, d'influence divine dans les écrits. Il y a trop, trop de choses qui sont curieuses et étranges. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a de très beaux passages. Je vous en ai lu, je vous ai lu parmi les plus beaux. J'aime beaucoup Maria Valtorta, j'ai prié sur sa tombe, je la prie, je crois bien qu'elle est au ciel, pour qu'elle vous éclaire, qu'elle m'éclaire, qu'elle nous éclaire tous, et qu'elle soit pour nous un exemple de quelqu'un qui a beaucoup aimé Jésus et qui a vécu pour lui. Si vous avez le désir d'avoir une copie de cette cassette audio, vous téléphonez à Marc-Alexandre à 374-3785 à Montréal. 514-374-3785. Il a toutes les cassettes depuis le début de cette série. À la régie technique, je crois que c'était Monsieur René Barbin, que je salue. Ici Raymond Beaugrand-Champagne qui vous dit que cette émission sera rediffusée ce soir et que demain, donc, je vous rappelle, une émission spéciale sur les révélations privées.